Alexia, donc je peux vous dire un petit mot. Voilà, donc on a Alexia est journaliste à La Vie où elle est responsable du cahier de spiritualité qui s'appelle Les Essentiels, où elle fait rencontrer aux lecteurs des personnes au parcours toujours passionnant. Et donc, comme on a eu l'occasion de travailler ensemble pendant quelques années, je suis ravi de simplement lui passer le relais, de lui passer le micro. Et puis, évidemment, avant de te passer le micro, Alexia, je veux rappeler que tu as publié un livre formidable. Voilà, je suis objectif en plus, parce que vous savez que les journalistes sont toujours objectifs. Hein, vous ne connaissez pas de journaliste qui ne soit pas objectif. Et donc, Alexia a publié Comme des cœurs brûlants, un livre dans lequel elle raconte, tu racontes. Elle raconte son témoignage personnel de conversion et des histoires de convertis. C'est un livre qui est paru chez Arthège, qui a déjà un succès mérité. Et Alexia le signera aussi vendredi. Voilà, je te passe le micro.
Bonjour. Merci Jean-Pierre pour cette belle introduction. Je suis très heureuse d'être devant vous aujourd'hui en ce lancement de Pèlerinage du Rosaire. Très heureuse, mais je préfère vous l'avouer d'emblée, assez intimidée de me retrouver face à vous tous. D'abord parce que ce n'est pas rien de passer après le grand Jean-Pierre Denis. Grâce à qui d'ailleurs j'ai le plaisir de travailler à La Vie. Et puis surtout, je me sens toute petite face à vous parce que contrairement à Jean-Pierre et contrairement à beaucoup de personnes qui vont intervenir cette semaine, je ne suis absolument pas une conférencière ni une prédicatrice. Je me sens un petit peu comme Saint Paul, qui est mon saint de prédilection. Mon grand ami depuis ma conversion, et qui dit, je crois aux chrétiens de Corinthe, qu'il s'est présenté à eux pour annoncer le mystère de Dieu, non pas avec le prestige de la sagesse ou du langage, mais dans la faiblesse, tout craintif et tout tremblant. Donc voilà, je me présente à vous toute craintive et toute tremblante, et ce que je vous propose, c'est que je ne vais pas vous délivrer une conférence. Même si j'écris un texte que je risque de suivre un petit peu, mais je vais essayer de faire comme j'ai fait le week-end dernier, où j'étais au congrès mission à Rennes et j'ai participé à une table ronde dont le thème était Être missionnaire, c'est laisser déborder son cœur. Donc voilà, puisse la Vierge Marie, Sainte Bernadette, m'aider à laisser déborder mon cœur brûlant, mon cœur brûlé. Et puisse aussi votre cœur à vous être brûlé, brûlant et repartir encore plus brûlant qu'il n'était en arrivant. Et pour cela, j'ose me tourner vers la Vierge Marie et prier avec vous une invocation à l'Esprit Saint de Saint Séraphim de Sarov, que j'aime beaucoup, qui est ma prière quotidienne et permanente. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Voilà, je pense qu'on peut se lancer. Est-ce que d'abord vous m'entendez tous bien? Super, parce que moi je m'entends assez mal, parce qu'il y a beaucoup d'écho. Mais c'est le principal que vous entendiez. Alors, avant de lever un coin du voile sur ma petite histoire de conversion qui n'aurait guère d'intérêt si elle n'était qu'un cas isolé, une question s'impose qui paraît toute simple mais qui est, me semble-t-il, cruciale. Comment témoigner d'une conversion au Christ? Peut-on seulement en parler? Peut-on seulement en faire le récit sans risquer de mal parler, sans risquer de passer à côté de ce mystère, voire, ce qui est bien pire, sans risquer de défigurer ce mystère si mystérieux de la rencontre entre une personne et Dieu, la rencontre entre la liberté de Dieu et la liberté de l'homme. Et nous le savons bien, les mots sont trop faibles pour décrire la violence de ce phénomène. Les mots sont trop petits, trop courts, trop étriqués, trop étroits, trop maladroits, trop humains en somme, pour restituer l'intensité de cette déflagration intérieure qui est suscitée lorsque l'homme remonte à la source de son être, lorsqu'il s'y abreuve pour la première fois, lorsqu'en somme, il reçoit ce cadeau inouï de la foi. Vous le savez tout aussi bien que moi, peut-être plus, l'amour, qu'il soit pour Dieu ou pour un être de chair, qu'il s'agisse d'un coup de foudre ou d'un coup de grâce, l'amour ne s'explique pas. Il se reçoit, il s'accueille, il se vit, il s'expérimente. Et finalement, moi je suis toujours démunie lorsqu'on me demande de raconter ma conversion, lorsqu'on me demande de verser au dossier de ma conversion des preuves, des raisons. Je suis toujours démunie quand je dois verser des pièces à conviction et les offrir au tribunal de la raison. Et ça me fait penser à un livre que je vous conseille, que j'ai lu cet été, que vous connaissez peut-être, qui est « La grâce » de Thibaut de Montaigu. Dans ce roman, Thibaut raconte sa conversion, et lui, qui écrit quand même très bien, soulève aussi cette difficulté de mettre des mots sur une conversion. Comment rendre compte de la grâce qui un jour déboule dans une vie ? Et d'ailleurs, petite parenthèse, il a une très belle définition de la grâce, il en parle comme de cette possibilité inouï d'un contact charnel avec Dieu. Bref, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut parler au risque de mal parler ? Ou est-ce qu'il faut se taire au risque de perdre ce trésor de la foi ? Parce que comme disait le père Sérac, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Autrement dit, le converti, donc moi en l'occurrence, doit-il garder pour lui cette vérité intime qui le fait vivre, à savoir Dieu qui a fait irruption dans sa vie? Doit-il garder pour lui ce secret dont seul le roi a la clé? C'est vrai que longtemps, cette question cruciale m'a travaillé. Alors c'est vrai que je témoignais volontiers de ce qui m'était arrivé, notamment à mes proches, à mon entourage. Mais j'avais une certaine pudeur, une certaine crainte, et je n'osais pas aller plus loin. Donc quand mon éditeur chez Arthège m'a proposé d'écrire un livre sur ma conversion, vous imaginez ma réponse, elle fut brève, ferme et spontanée. C'était « merci, mais non merci, je passe mon tour ». En revanche, une chose importante, c'est que j'ai d'autant plus dit non que je venais de lire Nos amis les saints, qui est un texte que je vous conseille de Georges Bernanos, un très beau texte, mais dans lequel il se montre vraiment pas trop tendre envers les convertis, et il se plaît à épingler tous leurs travers, mais ils sont nombreux. Et je vous cite ce passage qui a calmé ma plume pour de bon. Les convertis parlent beaucoup. Parlent énormément de leur conversion, un peu à la manière de ces malades guéris qui ne vous font grâce d'aucun des détails de leur ancienne maladie, vous assommant d'élixirs et de pilules. Faut-il ajouter que les cléricaux ont beaucoup de goût pour cette sorte de gens, et il est certain que leur témoignage a la même valeur publicitaire que celui de ces messieurs dont on voit la photographie à la 4e page des journaux. Donc voilà, après avoir lu ça, on n'a plus trop envie de parler. Mais mon éditeur était malin, il avait vu juste, parce que évidemment le thème de la conversion m'intéressait et de près. Et je me suis dit que peut-être mieux comprendre ce phénomène de la conversion me permettrait de mieux en vivre et donc de mieux en témoigner. Et si je n'aime pas parler de moi, en revanche parler des autres et les faire parler d'eux, je fais ça chaque semaine à la vie en étant en charge des essentiels. Donc c'est mon métier. Et c'est même ma passion. Donc plutôt que parler de ma conversion, j'allais faire parler des grands convertis. Et donc, avec mon éditeur, on s'est dit que je ferais une galerie de portraits de convertis du XXe siècle. La liste fut délicate à établir parce qu'au XXe siècle, il y a de nombreux convertis. Il y en a des très fameux que vous connaissez évidemment, Peggy, Claudel, les Maritains, Madeleine Delbrel et j'en passe. Mais j'ai voulu parler de témoins, de ce retournement complet de la personne qui s'opère lorsque Dieu fait du cœur le foyer de son feu dévorant. Je voulais trouver des personnes qui soient moins connues mais qui méritaient de l'être. Avec un critère, si je puis dire, critère de sélection, je voulais vraiment rendre manifeste l'universalité et la toute-puissance de la grâce. À Dieu, rien n'est impossible. Et personne, quelle que soit son origine, son milieu, son parcours, son état de vie, sa situation, personne ne peut se croire à l'abri d'une éruption de Dieu dans sa vie. Autrement dit, il n'y a pas de profil type pour rencontrer Jésus, et Dieu merci. Donc mon choix, après mûre réflexion, ça s'est arrêté sur sept hommes et femmes, aux origines, au caractère, aux sensibilités, aux parcours très différents, issus des quatre coins du monde, et jetés dans des heures singulières et souvent très noires, très désespérées de l'histoire. Donc je vous fais la liste. Il y a la caricaturiste française Marcel Gallois, le couple rwandais Daphrose et Cyprien Rugamba, la journaliste américaine et militante de la gauche radicale Dorothy Day, qui est peut-être la plus connue de ma galerie de portraits, l'aristocrate mondain Alexeslas Jevouski, Sergueï Kourdakov, qui est un jeune russe qui faisait partie d'une police secrète destinée à éradiquer les croyants dans l'URSS, le médecin japonais Takashi Tagai et le fondamentaliste romain Bruno Corniacolia, cet homme qui voulait tuer le pape et que la Vierge Marie a rattrapé in extremis. Petite parenthèse, je me permets une petite publicité. Ce soir, demain et après-demain à 18h, donc je fais des écoles du soir, je ne sais pas où, mais ça doit être marqué dans vos programmes, et je vais raconter l'histoire de trois de ces témoins. Trois témoins qui ont une relation particulière à la Vierge Marie. Ce soir, c'est Bruno Corniacolia. Demain, j'ai un petit doute, mais je crois que c'est Takashi Nagai. Et vendredi, ce sera les époux Rugamba, donc ces fondateurs de la communauté de l'Emmanuel au Rwanda, qui ont été tués aux premières lueurs du génocide. Voilà. Une fois ma liste des témoins établie, j'aurais pu me lancer directement dans l'écriture. En plus, les journalistes ont souvent une plume intrépide qui est pressée de s'y mettre. Mais j'ai eu peur d'aborder la vie romanesque de ces personnes de manière seulement humaine, tristement horizontale. J'avais peur, là encore, de mal parler, de mal écrire et donc de passer à côté du mystère de la rencontre de ces personnes avec Dieu. Et donc j'ai pris ma Bible, car par où commencer sinon par le commencement? Et au commencement, il y a ce cri jailli des entrailles du Père qui traverse toute l'histoire sainte, cette histoire qui est la nôtre aussi, qui traverse toute l'humanité et que l'on trouve dans la Genèse, à savoir « Adam, où es-tu ?» Au commencement, il y a Dieu qui refuse d'abandonner sa créature à elle-même. Depuis la chute dans le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos déserts spirituels du XXIe siècle, le Seigneur marche sur les routes du monde à notre rencontre. Tous les chemins ne mènent pas à Dieu, mais Dieu les emprunte tous pour rejoindre l'homme. Et il n'a pas peur de se salir les pieds, il n'a pas peur d'arpenter les vallées obscures, il ne cesse de marcher. C'est lui qui toujours fait le premier pas de la rencontre et de l'alliance, qui le premier prend l'initiative de se manifester, de se révéler, de se faire connaître. Comme Jésus le dit la veille de sa passion, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi ». Important de rétablir l'ordre des choses. J'aime beaucoup, à la messe, quand le prêtre choisit la quatrième prière eucharistique, parce qu'elle ces paroles qui résument tout et qui sont, je trouve, très fortes. comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Donc finalement, si un jour l'homme se met en quête de Dieu, ce n'est pas de lui-même, mais c'est toujours par grâce. Voilà, l'amour de Dieu est toujours premier, la grâce est première. Je vais citer le pape Jean-Paul II qui a aussi beaucoup décrit cette imbrication entre l'initiative de Dieu et la réponse de l'homme. Poursuivi par Dieu, l'homme ressent déjà sa présence. Il rayonne déjà de la lumière qui se trouve encore derrière lui. Il est déjà concerné par cette voix qu'il appelle de loin. Et ainsi, l'homme commence à chercher lui-même le Dieu qui le cherche. Recherché, il se met en recherche. Aimé, il commence à aimer. Tout ça pour dire qu'il faut regarder Dieu d'abord pour voir ce qui se trame en l'homme, ensuite scruter le cœur de Dieu, Dieu en son cœur, pour voir toutes ces merveilles qu'il déploie dans l'unique but de ramener à lui son enfant. Merveille d'amour, merveille de patience, merveille d'ingéniosité, d'inventivité, merveille de miséricorde. Voilà, il déploie toutes ces merveilles pour nous séduire. Et je me suis donc attelée à cette relecture priante de la parole de Dieu pour écrire cette partie. Et sans même me rendre compte, j'ai mis mon expérience, ma petite expérience de Dieu, au contact de la parole, dans une sorte de peau à peau, de lectio divina toute personnelle. Et une lectio divina assez libre, parce que je ne suis pas conférencière ni prédicatrice, comme je vous le disais au début, mais je ne suis pas non plus théologienne ni bibliste. En revanche, je crois vraiment qu'à qui se remet à lui, l'invoque et le prie, l'Esprit Saint peut guider vers la vérité tout entière. Donc voilà, avec l'Esprit Saint, avec son aide, j'ai fait cette relecture priante de la parole de Dieu, et je crois que peu à peu, pas à pas, j'ai pu m'approcher, autant que faire se peut, de la céleste mécanique à l'œuvre dans l'âme du converti. Et ces modestes trouvailles, que je n'ai peut-être pas le temps de détailler aujourd'hui, mais vous pourrez lire mon livre, ces modestes trouvailles, je les ai ensuite rassemblées pour faire la première partie de ma galerie de portraits. Donc, comme vous l'aurez compris, dans mes cœurs brûlants, je parle un petit peu de moi. Et là, je me perds avec mes feuilles, pardon. Hop. Donc je parle un petit peu moi dans mes cœurs brûlants, je lève un coin du voile sur ma conversion. Donc vous vous demandez peut-être pourquoi et comment j'ai bravé mes réticences premières qui avaient été accrues par la lecture de Bernanos. Tout simplement parce que, chemin faisant, j'ai réalisé qu'une telle expérience existentielle ne s'évoquait pas de l'extérieur, finalement, comme à distance. Mais c'est de l'intérieur même de cette blessure d'amour qu'est la conversion qu'on peut le mieux en parler. On peut le mieux en parler à la condition, et elle est essentielle, d'essayer de puiser ses mots à la source, de tirer sa parole de la parole de Dieu, d'utiliser le petit jeu de cette petite personne, mais dans le but unique d'essayer de faire jaillir le grand tu de Dieu. Autrement dit, de ne pas parler de soi, mais de Dieu. En tout cas, j'ai sincèrement essayé, avec mes cœurs brûlants, de ne pas faire un livre sur moi et sur Dieu, parce que mon histoire n'a guère d'intérêt en elle-même, mais c'est Dieu dont il faut parler, parce que c'est lui qui est la vie, tout simplement, et qui est la source de notre bonheur véritable. Donc peut-être que certains d'entre vous vont lire mon livre, et c'est vous qui pourrez me dire si j'ai réussi ou pas ce pari. Voilà, donc je crois avoir assez attisé votre curiosité pour rentrer dans le vif, dans le cœur du sujet. Donc, J'ai une petite pause prière. À l'âge de 20 ans, j'étais étudiante à Sciences Po Paris. Et comme bonne élève de cette honorable institution, j'étais devenue le parfait enfant de mon siècle, pur produit de la modernité, de l'esprit du monde. Rien de très classique en somme. J'étais très attachée à ce que je pensais être ma liberté. Je me voulais autonome, indépendante, libérée de tout lien, de tout déterminisme, y compris celui de la nature, seul seigneur et maître à bord de mon existence. Et je considérais que mon bien-être résidait uniquement dans l'affirmation et l'épanouissement de mon petit moi émancipé, donc un moi absolu qui ne dépendrait de rien ni de personne. J'ouvre une parenthèse encore, Benoît XVI a beaucoup écrit sur cette absolutisation de l'homme qui est selon lui une des conséquences les plus tragiques de la réduction anthropologique que connaît notre époque et qui repose à la fois sur un prométhéisme technologique et un hédonisme matérialiste. Mais ça nous emmènerait trop loin que de parler de ça maintenant et je vous renvoie à ses écrits. Donc voilà, à 20 ans, j'avais donc écarté toute religion et toute spiritualité de mon horizon. Pourtant, ma maman était catholique, en tout cas elle avait une relation sincère et vraie et assez fidèle avec Jésus et la Vierge Marie, en dehors de toute institution. Mais moi, toutes ces choses-là me passaient complètement au-dessus de ma tête. Je n'étais pas athée ni agnostique, disons que j'étais vraiment indifférente aux choses de Dieu. En revanche, et c'est important pour la suite, parce que Dieu va s'en servir, il sait toujours s'infiltrer dans les toutes petites brèches, j'avais en revanche un besoin conscient, un besoin vital de silence. J'avais besoin de faire une pause dans cette course folle de la vie étudiante parisienne. J'avais besoin de me poser, de me reposer, de faire silence, d'avoir ne serait-ce que quelques jours l'occasion de fuir tous les écrans, de m'extraire de cette jungle hyper connectée qui est notre société. Il était moins à l'époque qu'aujourd'hui, mais quand même pas mal. Donc j'avais juste besoin de m'affranchir de la drogue du bruit, qui est une drogue dure. Et là-dessus, deux copines de lycée, qui sont des catholiques pétillantes, sont venues dîner chez moi à la maison, et elles revenaient tout juste d'un monastère à la montagne où elles avaient vécu le nouvel an. Et donc elles me racontent leur séjour. Et puis au fil de la conversation, les deux me lancent presque d'un même cœur: mais Alexia, ce serait super que tu ailles là-bas après tes examens, ça te ferait du bien de reposer. Et elles ont eu l'intelligence de me préciser que je serais très libre et que je ne serais pas obligée d'aller à la messe, même pas de rentrer dans les églises, et que je ne serais pas dérangée par les religieuses, que je n'avais absolument pas envie de voir. Et je me suis dit, tiens, s'il y a bien un endroit sur cette terre où je pourrais me retrouver seule et en silence, c'est bien un monastère. Je n'y connaissais pas grand-chose dans la vie monastique, mais j'avais quand même eu vent de cette nouvelle mode des retraites spirituelles. Et donc j'ai appelé le monastère au téléphone pour demander l'hospitalité. Et je me souviendrai toujours de ce premier échange qui m'a marquée, parce que la sœur me dit « Vous venez pour prier ?» Moi j'ai dit « Non, 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 surtout pas, je ne suis même pas baptisée. » Et la petite sœur m'a dit « Pas de problème, venez vite, nous vous attendons. » Donc c'est comme ça que je suis arrivée le 12 février 2008 dans ce monastère face à la chaîne du Mont-Blanc. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, aussi fou que cela puisse paraître, et je suis restée dans cet émerveillement de ce qui est arrivé. Voilà, en l'espace de 3 jours, j'ai été littéralement retournée comme un gant. Le Seigneur m'a parlé, et le Seigneur m'a révélé son amour en l'espace de 3 jours. Alors comment ? Là, on retrouve la difficulté de mettre des mots sur une telle expérience, mais je crois que le Seigneur a pris différents chemins de manière simultanée pour pour toucher mon cœur. Il y a eu d'abord la beauté de la création. Quand on se retrouve face à la chaîne du Mont Blanc, immaculée de neige, je pense que toute personne un peu sensible, un peu disponible, se dit bah, il y a quelque chose, peut-être pas encore quelqu'un, mais il y a quelque chose devant cette telle splendeur gratuite. On a du mal à croire que c'est juste le fruit du hasard. Donc voilà, la beauté de la création a été ce premier choc. Ensuite, dès le premier soir de mon séjour au monastère, contrairement à la promesse de mes amis de lycée, une petite sœur est venue toquer à ma porte, elle est rentrée dans ma chambre, et on a commencé à parler. Enfin, je dis parler, elle m'a surtout beaucoup écoutée, avec une attention rare, une présence dont je n'avais, je pense, jamais fait l'expérience. Mais vraiment, cette attention qui est si importante. Je crois que c'est Simone Veil qui disait que les malheureux n'ont pas besoin d'autre chose que de personnes qui fassent attention à eux. Et Simone Veil parle de cette attention comme d'une chose très rare et même comme d'un miracle. En tout cas, cette petite sœur a fait attention à moi et par son écoute, j'ai pu comme accoucher de ce que je portais en moi profondément. Cette petite sœur a comme fait exploser la chape de plomb que l'esprit du monde avait recouvert sur mon intériorité. Cette première discussion a duré, je ne sais pas, 2, 3, 4 heures, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai commencé à découvrir ce cœur profond dont je ne soupçonnais pas l'existence et j'ai commencé à écouter ce cœur profond. Ensuite, donc il y a eu la beauté de la création, l'attention, l'écoute, l'amour gratuit de ces petites sœurs qui ne me connaissaient pas et qui pourtant me recevaient telle que j'étais et m'aimaient en fait, tout simplement. Et puis j'ai commencé aussi à aller à la liturgie. C'était en plein carême et j'ai été vraiment saisie par cette liturgie qui ne cesse de répéter voilà, convertissez-vous, revenez à moi. C'est quand même une liturgie très forte et qui nous entraîne dans un élan, dans une dynamique. Et puis le troisième jour, je suis allée rencontrer l'aumônier du monastère, le père Pierre Jacquard, qui est mort et qui est au ciel depuis 2-3 ans. Et cet homme m'a parlé de sa vie. Pendant 40 ans, avec son frère de sang, missionnaire également, il a sillonné le monde pour se mettre au service des plus pauvres, des plus déshérités, notamment des lépreux d'Afrique et de Calcutta jusqu'aux filles livrées à l'enfer de la prostitution en Colombie. Et voilà, j'avais un homme pétri de joie et d'amour qui me parlait de cette vie donnée jusqu'à l'extrême. Et en voyant ça, je me suis dit, bah, tiens, peut-être que finalement, mon bien-être n'est pas dans l'épanouissement de moi-même, mais peut-être que mon bonheur, et là déjà on fait un pas, que mon bonheur est dans le don de moi-même, et que là est la joie, et que là est la vie. Bref, il y a eu plein d'autres éléments qui se sont mêlés les uns aux autres, et en tout cas, le troisième jour, quand j'étais sous la fresque de la Sainte Trinité qu'il y a dans un sanctuaire du monastère, la grande icône de la Trinité, dite de l'hospitalité d'Abraham, donc celle de Roublov, disons que ma tête est tombée dans mon cœur et je me suis sentie appelée, invitée à rejoindre cette communion d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai pris conscience tout simplement que j'avais du prix aux yeux de Dieu, que j'étais créée par amour et pour cet amour. Et tel est bien, me semble-t-il, le déclic, le nœud et le ressort de toute conversion. Cette prise de conscience saisissante, désarmante, de l'amour unique, singulier et personnel de Dieu pour soi. Alors certes, il y a autant de chemins vers Dieu qu'il y a d'êtres humains, c'est ce que le pape Benoît XVI rappelait il y a quelques années, et par là même, aucune conversion ne se ressemble. Voilà, chaque personne est unique et donc Dieu appelle chaque personne de manière unique. Mais je crois que chaque conversion s'opère lorsque l'homme se laisse regarder par Jésus et que dans ce regard de miséricorde, il se découvre avec stupeur et malgré tout infiniment aimé et aimable, et qu'ils se découvrent l'objet d'un amour d'élection, de prédilection et de préférence. Non seulement Dieu existe, mais j'existe pour lui, et même je suis son préféré. Et le père Pierre, dont je vous parlais tout à l'heure, aimait souvent confier ce grand secret aux personnes qui venaient le visiter dans son ermitage. Il leur disait d'un ton très solennel et très sincère, « Sache que tu es l'enfant préféré de Dieu, Père. Tu es la petite fille ou le petit-fils préféré du Père. Tu es aussi la petite sœur ou le petit frère préféré de Jésus et tu es l'ami le plus intime de l'Esprit-Saint. » Ça peut paraître un peu niais, mais c'est vraiment de cet enfant spirituel dont il vivait. Et moi, j'ai ressenti voilà, cet amour de préférence qui donne à la vie une toute autre saveur. Et Benoît XVI, alors je le cite beaucoup, mais parce que je l'aime beaucoup et je trouve qu'il met quand même les choses en mots très justes et très limpides et très profonds. Je crois que c'était lors de sa première messe en tant que souverain pontife, il a eu ces mots qui ont marqué beaucoup de personnes. « Nous ne sommes pas le produit accidentel et dépourvu de sens de l'évolution. » Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu. Chacun de nous est aimé. Chacun est nécessaire. Voilà, nous ne sommes pas le produit accidentel et dépourvu de sens de l'évolution. Nous sommes tous le fruit d'une pensée de Dieu. Et c'est cette bonne nouvelle que moi j'ai reçue au monastère, une bonne nouvelle qui redonne de la joie et de la vie à moi, à l'enfant que j'étais, malade de ce siècle plein d'individualisme froid, un siècle atomisé, un siècle individualiste et froid, d'une indifférence froide. Comme je vous le disais au début, toute conversion est donc le miracle d'une rencontre. La rencontre amoureuse est donc libre d'un homme ou d'une femme avec le Christ. Et c'est pourquoi je ne supporte pas lorsqu'on dit que le christianisme est la religion d'un livre ou d'une loi. Parce que selon moi, enfin pas selon moi, mais le christianisme, c'est la religion d'un Dieu personnel, d'un Dieu vivant, d'un Dieu vivifiant. C'est la religion d'une présence. Et donc moi, quand j'ai demandé le baptême, à l'âge de 20 ans, j'ai pas voulu signer au bas d'une longue liste de préceptes et d'interdits, de droits et de devoirs, de principes et de dogmes. J'ai pas espéré rejoindre le dernier clan des justes ou adopter un style de vie, une sagesse ou une philosophie. Mais j'ai tout simplement décidé de m'engager dans une relation sérieuse avec cette personne, c'est-à-dire Dieu, dont j'étais tombée amoureuse en l'espace de 3 jours. Alors évidemment, ce choix de demander le baptême à l'âge de 20 ans, vu mon parcours jusque-là, en a étonné plus d'un, à commencer par mes proches, par ma famille. Et Dieu merci, parmi les livres que les petites sœurs m'avaient prêtés lors de mon premier séjour au monastère, il y avait Benoît XVI, évidemment, et c'était sa première encyclique « Dieu est amour ». Et au tout début de cette encyclique, le pape Benoît XVI revient finalement sur ce qu'est le cœur de notre foi chrétienne. « Nous avons cru à l'amour de Dieu. C'est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. » Voilà. À l'origine du fait d'être chrétien, il y a la rencontre avec une personne. Mais on n'a pas tout dit, c'est qu'il y a certes le choc de la rencontre, l'instant précis où le ciel s'ouvre aux yeux du converti, cet instant fulgurant, formidable, que j'ai connu et dont, j'avoue, j'ai souvent la nostalgie. Mais voilà, à partir de là, tout reste à faire et à construire. Comme disait Paul Claudel, ce converti de Notre-Dame de Paris, Les conversions sont toujours l'effet moins d'une grande victoire consommée que d'une longue série de tout petits efforts réussis. Toute la machine qui marchait dans un sens, il faut lui apprendre un autre sens. Autrement dit, la passion doit se transformer en amour vrai. L'ivresse en fidélité et finalement le pécheur en saint. Et je crois qu'il n'y a rien de plus terrible pour un chrétien et a fortiori un converti de se croire arrivé du bon côté de la barrière, de se dire voilà, je suis chrétien, tout va bien. C'est très dangereux parce que certes, si l'on est sur la bonne route, c'est déjà bien, celle du Christ, mais il faut se relever à chaque chute, marcher et avancer, ne pas s'endormir en chemin dans une sorte de paresse spirituelle ou de mollesse. Cette mollesse qui faisait dire à Peggy, il y a bien pire qu'une âme perverse, c'est une âme habituée. Alors une âme habituée, c'est quoi ? C'est une âme installée, satisfaite d'elle-même, une âme bourgeoise, une âme tiède, de cette tiédeur que le Seigneur, à travers la voix de Saint Jean, vomissait de sa bouche dans l'Apocalypse. Voilà, je vomirai les tièdes. D'ailleurs, c'est une des premières paroles que j'ai lues en ouvrant la première fois la Bible. C'était ce passage assez radical. Et je l'ai choisi comme lecture de baptême, tellement je ne voulais pas l'oublier. Ne pas s'attiédir. Parce que, quel est le danger finalement? C'est que cette sorte de satiété spirituelle, d'orgueil spirituel qui défigure aussi bien le chrétien que l'Église, que le monde, cette satiété spirituelle est mortelle. Est-ce qu'on peut mourir de ne plus avoir faim? Je crois qu'aujourd'hui, nous le touchons particulièrement, cocher les cases ne suffit pas, sauf à être un légaliste, sauf à s'élever, à se lever comme le pharisien de la parabole qui se sent meilleur que tous les autres hommes. Cocher les cases ne suffit pas, sauf à s'accrocher au signe de la foi, sauf à se croire sauvé par la seule confession de la vraie foi. Et en cela, dès le début de ma conversion, et jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait 12 ans, 14 ans, voilà, les années passent, je me refuse à être une bonne catholique, selon la parole de Marie-Noël. Je ne veux pas m'installer. Et c'est pour ça que je saisis toujours la parole de Dieu, parce qu'il n'y a pas de meilleur manuel de désinstallation. À la satisfaction, je préfère l'inquiétude, l'inconfort, même si l'inconfort est par définition inconfortable. Je préfère la recherche parfois gémissante, parfois douloureuse de ce Dieu qui nous a saisi un jour, mais que nous sommes appelés à rechercher toujours plus. Nous ne le saisirons jamais totalement, c'est lui qui nous saisit, et nous sommes appelés à nous approcher de lui chaque jour. Donc la conversion, c'est vraiment chaque jour. Et je ne résiste pas au plaisir de citer mon grand copain Saint Paul, qui lui ne s'est pas arrêté sur le chemin de Damas après être tombé de son cheval. Il ne s'est pas reposé sur ses lauriers, mais il s'est justement lancé dans cette dynamique de la conversion. Je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. Non, frère, je ne me flatte point d'avoir déjà saisi. Je dis seulement ceci, oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. Donc c'est dans l'épître aux Philippiens. En cela, et j'insiste tellement c'est important, la conversion ne se réduit pas au moment décisif où tout a basculé. Loin d'être acquise une fois pour toutes, elle est le labeur de toute une vie, elle est le travail de notre liberté toujours recommencée. Finalement, elle est un chemin, et sur ce chemin semé d'épines plus que de roses, très rarement linéaire, nul n'est jamais arrivé. Voilà, Dieu est tellement grand qu'on n'en aura jamais fini et on ne sera jamais arrivé si ce n'est au ciel. Et parmi les auteurs que j'aime beaucoup citer, vous voyez, je cite beaucoup, mais c'est ce qui nourrit aussi ma prière et ma réflexion. Il y a un père du désert, donc ces moines des solitudes d'Égypte et de Cété au 1er siècle en 4e, 5e siècle, il y a le Abba Pouémen qui dit « Il y a une voix qui crie à l'homme jusqu'à son dernier souffle, aujourd'hui, convertis-toi. » Donc aujourd'hui, réveille-toi. Aujourd'hui, laisse-toi travailler par la grâce. Désinstalle-toi, lève-toi, lève-toi pour accueillir cet époux qui vient à ta rencontre, et il vient à ta rencontre de mille manières différentes, mais dans l'épaisseur de ta vie. Aujourd'hui, renonce à tes sécurités, à tes idées fausses sur toi-même, sur Dieu, sur la vie, à toutes tes idoles que tu t'es construites. Tout cela, je l'ai découvert au fil du temps, tout cela requiert de la volonté, de la force d'âme et de la persévérance. Et c'est là, finalement, que réside le vrai, le bon combat, celui de la foi, dont saint Paul a si bien parlé dans ses épîtres, et saint Paul parlait même d'un pugilat, d'une bataille redoutable et jusqu'au sang, qui étend ses lignes jusqu'à l'intime de nous-mêmes, et qui se joue entre finalement ce vieil homme, cet homme pécheur qui refuse de mourir, et notre homme nouveau qui peine à naître. Et ainsi, j'insiste encore, la conversion n'est pas le point d'arrivée, mais le point de départ d'une aventure humaine et spirituelle décapante. Moi, depuis 14 ans, enfin, au départ de ma conversion, la sœur m'avait prévenue, la fameuse petite sœur m'avait dit « Voilà, la foi chrétienne, ce n'est pas un nirvana ». Je voulais la croire, mais je n'avais pas encore compris dans quelle mesure, finalement, la vie chrétienne est exigeante, parce que ça nous demande de nous déplacer à chaque fois. Parce que le but, c'est vraiment de donner au Christ chacune des fibres de son être. Et pour revenir à saint Paul, notre homme intérieur, donc le Christ en nous, ne pourra que se fortifier et se renouveler à la mesure où nous crucifierons notre vieil homme. Et finalement, le but, c'est vraiment d'être un même maître avec le Christ. Donc on ne peut pas fuir ce combat d'une conversion toujours recommencée. Et c'est seulement à cette condition-là qu'on pourra retrouver notre vrai, notre singulier visage, qu'on pourra revenir finalement à ce cœur profond, à ce trésor caché que nous avons tous en nous et qui ne demande qu'à être libéré de toutes ces entraves. Parce que la conversion ne consiste pas finalement à passer d'un camp à l'autre et encore moins d'un camp contre l'autre, mais ça consiste vraiment à revenir à soi-même, à se découvrir, à naître à soi-même. On dit souvent que la conversion est une nouvelle naissance, et ça l'est vraiment, c'est une naissance encore plus accomplie que la naissance biologique, parce qu'on apprend à se connaître, et chaque jour on essaye d'avancer pas après pas dans une connaissance toujours plus fine de qui nous sommes en vérité. Grégoire de Nazianze, qui est un théologien poète du 4e siècle, conseiller aux fidèles, il disait « Ne restons pas ce que nous sommes, mais devenons qui nous étions. » Telle est notre vocation. Alors, je regarde discrètement l'heure, comme faisait Jean-Pierre, mais je serai moins discrète. 16 heures. C'est jusqu'à quelle heure ? Encore un peu de temps. Donc, conclusion, qui n'en est pas vraiment une. Je crois que pendant la crise sanitaire, nombre de nos contemporains et nous-mêmes avons fait l'expérience d'un manque, d'une soif, d'une faim d'autre chose, d'une solitude étrange et même un sentiment de perte que rien ne pouvait venir combler parfaitement. Certains ont peut-être même entendu gémir cette inquiétude métaphysique et religieuse que notre société technoïde et cupide essaie d'étouffer. Et c'est bon, parce que c'est important, l'homme doit affronter ces questions fondamentales de la raison, il doit se poser les questions essentielles que se posent même les enfants, à savoir qu'est-ce que la vie, où allons-nous, où est la vie, la vraie, et Dieu dans tout ça. Dans La France contre les robots, ce petit essai de Georges Bernanos écrit en 1947, l'écrivain volcanique accusait déjà la civilisation moderne d'être, je cite, « une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure ». le temps, je crois, est vraiment venu de déjouer cette conspiration. Comment ? Je pense d'abord en ayant le courage d'une certaine profondeur, cette profondeur que certaines personnes ont été acculées à faire pendant le confinement. Et voilà, on retrouve la question avec laquelle je commençais ce petit enseignement, je ne sais pas. C'était « Adam, où es-tu ? Es-tu à la surface de toi-même, comme éclaté vers l'extérieur, ou as-tu commencé à descendre en eau profonde, à aller fouiller voilà, ce que tu portes en toi, ce que tu portes en toi de soif d'infini et d'absolu ? » Et je pense que ce courage de la profondeur ne va pas sans le courage du silence, ce dont on a tellement peur aujourd'hui. Parce que la drogue du bruit dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une drogue dure qui certes tranquillise l'homme moderne, mais qui l'anesthésie et le tue à petit feu parce qu'il le retient de descendre encore une fois dans les profondeurs de lui-même. Il y a quelques années, on me demandait quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait rencontrer Dieu. Et ma réponse fut évidente, et elle l'est aujourd'hui encore, c'est voilà, osons le silence. Osons nous extraire, ne serait-ce que quelques jours, même quelques heures, de cette tyrannie du bruit. Comme disait Saint Bernard, Dieu ne parle pas à ceux qui se tiennent à l'extérieur d'eux-mêmes. Donc voilà, je crois que le temps est venu et le temps vient de déjouer cette conspiration. Et c'est mon espérance. Et un petit signe, pour reprendre le vocabulaire de Jean-Pierre, un petit signe nourrit cette expérience. Il est tout petit, mais il me donne de la joie, c'est que mon livre, Comme des cœurs brûlants, a trouvé un écho au-delà du milieu chrétien. On en a parlé dans la presse généraliste et même sur des plateaux de services publics, et je trouve que c'est une belle preuve finalement que le monde a soif d'autre chose, que le monde a fait l'expérience que l'homme n'était pas que matière et qu'il avait aussi besoin de nourrir son âme et son esprit. Et donc même si la période que nous vivons est crucifiante, même si l'Église est défigurée, même si nous pouvons avoir honte de notre Église, je crois que malgré tout, nous ne devons pas déserter ce terrain-là, nous devons nous-mêmes apprendre à parler le langage de l'âme, ce langage de la foi, pour pouvoir la parler de manière cohérente à nos contemporains et qu'ils puissent eux aussi, et qu'ils puissent aussi eux nous aider à retrouver la source de notre être où Dieu vient sans cesse à notre rencontre. Merci beaucoup. Petite sœur qui était là pour poser les questions n'est plus là, mais il y a Julie Caillé. Si vous avez une question, Julie va venir à vous pour la prendre.
Merci. S'il vous plaît, pourriez-vous redire la prière du début, qui était très belle. J'ai pas eu le temps de noter.
La prière de
Du tout début.
Du début.
Merci.
De Saint Séraphine de Sarov. Alors c'est « Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. » Qu'elle est très belle.
Tout d'abord, un grand merci pour votre témoignage. Mais la question, c'était, pourquoi avez-vous choisi La Vie ?
Le journal La Vie ?
Oui.
Alors, c'est très simple, le coupable est avec nous. C'est Jean-Pierre Denis, au premier rang, qui est venu me chercher et qui a su me convaincre et qui a bien fait de vaincre mes réticences parce que j'y suis encore très heureuse malgré son départ de ce beau journal.
Oui, merci. J'ai lu votre livre avec beaucoup de passion en version numérique. Simplement, ma question est, vous avez dit, Dieu dit, Adam, où es-tu ? Mais il dit aussi, qu'as-tu fait de ton frère quelque part ? Enfin, la question est, qu'est-ce que ça vous amène à faire pour vos frères, au-delà de ce que vous dirigez à La Vie, qui est aussi tout à fait intéressant, au-delà de ça ?
Oui, c'est vrai que la question est, qu'as-tu fait de ton frère ? Après, j'ai ce travail à La Vie que je fais comme, voilà, comme une vocation, de donner la parole dans les essentiels à toutes ces personnes qui essaient finalement de partir à l'aventure, celle de leur liberté. Et puis aussi, dans ma vie chrétienne, de petite chrétienne, j'essaye de vivre voilà, la charité du Christ. Mais c'est vrai que c'est là aussi, c'est une conversion toujours recommencée d'apprendre à aimer finalement. Et je pense qu'on apprendra, je sais que j'apprendrai à aimer chaque jour et jusqu'à mon dernier souffle, j'apprendrai à aimer et j'apprendrai à mieux aimer aussi à la faveur de toutes mes impossibilités, toutes mes incapacités, tous ces manquements à l'amour.
Bonjour. J'habite dans les Yvelines, dans un HLM près de Trappes. Et le problème de la conversion a un écho un peu particulier dans ce type de région. Et je voulais savoir si dans votre livre, il y avait un exemple de conversion d'un musulman au christianisme.
J'ai récemment interviewé, effectivement, non pas pour La Vie, mais pour le journal Mission, la revue Mission qui a été créée dans le cadre du congrès Mission, effectivement une femme musulmane qui avait rencontré Jésus. Après, j'avoue que moi, personnellement, je n'en connais pas beaucoup. Et c'est très délicat. C'est vrai que c'est un sujet délicat parce que parfois, on peut parler de la conversion, comme je disais tout à l'heure, passer d'un camp à l'autre, voire d'un camp contre l'autre. Alors que pour moi, voilà, chaque personne est sur cette terre sur un chemin de liberté et à chacun de vivre ce chemin. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément de contact avec ce genre de profil.
Oui, vous avez employé tout à l'heure une expression dans votre homélie qui m'a beaucoup plu, mais que je n'ai pas bien compris. Vous avez dit « ma tête est tombée dans mon cœur ». Qu'est-ce que vous aimeriez dire à propos de ça, s'il vous plaît ?
Je crois que c'est un défaut très occidental, c'est qu'on est très cérébral, on réfléchit beaucoup, on décortique tout, on essaie d'analyser, d'expliquer l'amour, de vérifier par l'expérience, etc. Et puis, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai faite, c'est qu'il y a un moment donné, je sentais bien qu'il fallait que ma tête tombe dans mon cœur. Les orientaux parlent de ça, on a ça dans le récit du pèlerin russe, par exemple. Et j'ai pu mettre ces mots parce que j'en ai fait l'expérience. J'ai vraiment senti, à un moment donné, quand j'étais sous la fresque de la Sainte Trinité, j'ai senti que, voilà, ma tête, mon cerveau était tombé dans mon cœur. Sachant que le cœur, dans le sens biblique, c'est pas juste les émotions, c'est le centre de la personne, c'est là où il y a sa volonté, où il y a tout, en fait. Mais c'est une question d'unification de sa personne, en fait. On n'est pas juste dans la raison résonante, expérimentale, mais dans la plénitude de la personne à laquelle on est appelé à vivre à plein, en fait.
Oui, Alexia, est-ce que vous avez remarqué dans votre entourage des gens très sensibles à votre conversion, qui se trouvait dans votre état d'esprit de votre toute première jeunesse et qui, grâce à vous, qui est un messager de l'amour de Dieu, sont en chemin eux-mêmes de conversion.
Alors oui, Dieu m'a gâtée à ce niveau-là parce que peu de temps après ma conversion, ma grande sœur, enfin l'une de mes deux grandes sœurs, s'est convertie elle aussi. Elle a reçu le baptême après un catéchuménat de 2 ans et je suis d'ailleurs sa marraine. Et je suis la marraine aussi d'un de ses 3 garçons. Donc elle est vraiment devenue une chrétienne fervente. Et puis aussi mes parents ont fait un très beau chemin de conversion, sans rentrer trop dans les détails. Ma maman, je vous ai dit qu'elle était catholique d'éducation, de tradition, mais qui s'était distanciée de l'Église parce qu'elle avait été très blessée par elle. Et un jour, elle a appris qu'elle avait un cancer du poumon. Et donc, voilà, c'est au creuset de la souffrance, finalement, elle a fait un chemin de foi extrêmement beau et en accéléré. Je vous passe les détails, mais en tout cas, mes parents se sont mariés à l'église 40 ans après leur mariage civil. Et donc, je suis la témoin de mariage de ma maman ou mon papa, je ne sais plus. Mais ce petit détail personnel me permet de rajouter un point important, c'est que Dieu ne nous convertit pas pour nous-mêmes, pour notre petit bonheur, notre petite sainteté personnelle, mais vraiment pour les autres. Et moi, je crois vraiment que Dieu savait ce qu'il faisait il y a 14 ans, quand il est venu m'attraper, parce qu'il savait plus ou moins ce qui allait se passer par la suite, qu'on aurait besoin de grâce pour vivre et traverser les épreuves de la vie.